Bonsoir à tous. Et c'est donc un quasi statu quo face à la cinquième vague de l'épidémie. Le gouvernement mise sur les gestes barrières, la vaccination. L'idée d'avancer les vacances scolaires reste dans les cartons. Le protocole dans les écoles sera toutefois renforcé. La conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran débute à l'instant. Le virus circule vite, dit encore le Premier ministre. On suit tout cela pour vous. Dans l'actualité encore, les voici côte à côte, tout sourire. Valérie Pécresse chez Éric Ciotti, prête, dit-elle, à pimenter son projet de quelques-unes des propositions du député des Alpes-Maritimes. Enquête ouverte après les violences au meeting d'Éric Zemmour hier, on fera le point. Et puis le retour de la grippe aviaire accentue les tensions dans la filière de la volaille. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, quoi de neuf sur le front du Covid? Pas grand-chose, hein, on le voit dans la conférence de presse qui est en train de se dérouler en même temps que nous parlons, mais on parlera protocoles dans les écoles, bien sûr, qui sont augmentés, masque à l'intérieur, masque à l'extérieur, pas de décision radicale sur la vaccination apparemment. Vos questions sont les bienvenues. Les bienvenus au 01 45 24 7000.
France Inter. Nous ne sommes pas à l'heure de nouvelles mesures drastiques, mais à celles d'ajustement. Olivier Véran et Jean Castex sont en train de les détailler en ce moment même face à la cinquième vague et à 3 semaines de Noël. Un chiffre inquiète, hein, le taux d'incidence des 5-11 ans. Il dépasse 1500 cas pour 100 000 habitants dans une dizaine de départements. Comment freiner ces contaminations? Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Ça a été sur la table un moment, mais les vacances scolaires ne seront pas avancées.
Non, toujours le même refrain, Jean-Michel Blanquer en a fait le titre de son livre « École ouverte, pas de vacances anticipées comme en Belgique ». Le ministère de l'Éducation va simplement rehausser d'un cran le protocole sanitaire niveau 3, c'est-à-dire masque obligatoire en intérieur et extérieur, dans la cour de récréation donc. Classe par classe, à la cantine, le moins de brassage possible et à l'intérieur, du sport en douceur pour y garder le masque. Quant à la vaccination de tous les 5-11 ans, le gouvernement attend le feu vert de la Haute Autorité de Santé, mais devrait ce soir se dire favorable à celle-ci sur la base du volontariat. Le Premier ministre est aussi attendu sur les créneaux manquants pour la troisième dose des adultes. 300 centres de vaccination devraient rouvrir, une dizaine à Paris avant Noël notamment. Vaccinez-vous, ce sera une fois de plus le cœur du message. Emmanuel Macron veut encore y croire, temporiser, ne pas céder aux fermetures, au télétravail obligatoire, aux jauges dans les restaurants. Il n'y a qu'un secteur dans le viseur, les discothèques, dont les dirigeants ne savaient toujours pas il y a quelques minutes de quel côté allait tomber la pièce. N'allez pas au bureau, mais sortez en boîte de nuit, ça n'est pas tenable, glisse le ministère du Travail. Jean Castex pourrait aussi évoquer quelques restrictions sur les marchés de Noël, la fin du vin chaud sur place, le masque obligatoire. Il vient de le dire, le virus circule vite, mais cette situation nous appelle à la vigilance sans céder à je ne sais quel affolement.
Vous restez avec nous, hein, Maxence Lambrecq, pour guetter les annonces importantes qui pourraient être dites dans les minutes qui viennent. Preuve que ce protocole à l'école, en tout cas, n'est pas toujours simple à mettre en place. Depuis la semaine dernière, le maire d'Eliès, dans le Nord, a carrément décidé de fermer l'école de la commune, 9 classes, et les équipements municipaux à cause de l'augmentation des cas pour une semaine au moins. Et pour ce qui est de la vaccination, Maxence, vous l'avez dit, le gouvernement attend l'avis du Comité national d'éthique. La Haute Autorité de Santé a déjà donné son feu vert pour vacciner les enfants fragiles présentant des risques de formes graves. Pour le reste, les contaminations augmentent toujours, autour de 40 000 cas quotidiens, mais la courbe a tendance à s'arrondir. La clé pour le gouvernement, c'est bien la campagne de rappel vaccinal, message martelé encore ce soir par le Premier ministre. De nombreux centres de vaccination vont rouvrir cette semaine pour proposer plus de créneaux. Et puis, les gestes barrières. Les Français y sont habitués au salut du coude et au masque sur le nez. Chacun sa petite routine. Ici, celle d'un couple qui habite à Paris avec ses deux enfants. Mathilde de Emy s'est invitée chez eux.
C'est un objet qui a vite trouvé sa place.
Moi, je les accroche là, au dossier de ma chaise. Et mon mari, lui, il les met dans le placard de l'entrée.
Et qu'il n'est pas question d'oublier.
J'en ai toujours 4 ou 5 dans mon sac à main.
J'en ai toujours 2 dans ma poche. Comme ça, même si j'en perds un, il m'en reste un deuxième.
Hélène a désormais des automatismes.
Je me suis rendu compte que c'était devenu un réflexe pour moi le jour où je l'ai mis automatiquement. Et la serveuse m'a dit, mais madame, c'est plus la peine maintenant que vous avez le pass sanitaire. C'était devenu un geste naturel.
Le masque est de nouveau obligatoire quand on se déplace au restaurant. Pas besoin d'imposer trop de règles, relève Nicolas. Il suffit d'observer la situation.
Si je vais au bar pour commander, des fois je remets mon masque. Dès qu'il y a un petit peu de foule autour de moi, je remets mon masque.
Et au moindre relâchement, c'est la sueur froide.
J'étais au travail, donc dans mon entreprise aujourd'hui, et je suis partie aux toilettes, j'avais pas mon masque. Je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, il faut que je retourne à la place vite, mettre mon masque. Et j'ai regardé autour de moi, il y avait pas un chat dans le couloir. Je me suis dit, bon, allez.
Les règles sont acquises, mais ça pêche ailleurs, sourit Nicolas.
Les gardes, mais au bout d'un moment, ils sentent pas très bon les masques à force de s'en servir. Et je pense pas toujours à les laver.
Ils n'envisagent pas de renoncer à sortir pour l'instant, conscient que les contaminations se font beaucoup en soirée. Quand tout ça sera terminé, dit Hélène, je porterai peut-être encore le masque dans le métro si je suis malade.
Reportage Mathilde Dehimi. Sans contraindre les entreprises, le gouvernement appelle aussi à plus de télétravail. En un an d'ailleurs, les arrêts maladie dus au Covid ont doublé, 12% en 2021 contre 6% en 2020. C'est l'un des constats du baromètre annuel du groupe d'assurance mutuelle et prévoyance Malakoff Humanis. Et pour les patrons des petites et moyennes entreprises, c'est un vrai défi d'organisation, Lauriane Delanoë.
Quand l'un de ses 4 salariés tombe malade, Christine Gros compte sur la solidarité des autres. Cette gérante d'une supérette près de Valenciennes vient d'avoir son premier cas de Covid-19.
Quand elle vous téléphone, qu'elle vous dit « Madame, je suis pas bien, j'ai été faire un test et je suis positive », là, il y a un blanc. Faut mobiliser tout le monde, faire plus d'heures, et puis heureusement qu'elles se remplacent l'une l'autre aussi, quoi. Et puis moi je complète aussi quand il manque du personnel ou quoi, oui, faut que ça tourne.
Christine Gros repousse donc souvent sa comptabilité pour passer en caisse ou en rayon. Le commerce est l'un des secteurs où le nombre d'arrêts augmente le plus cette année, comme les services. On peut les anticiper, assure le cofondateur d'Allenvie. Clément Saint-Olive emploie 80 auxiliaires de vie à domicile et ils sont répartis en binômes et petites équipes.
C'est un modèle très préventif. On a vraiment rompu l'isolement du salarié et ça change tout finalement dans sa pratique et notamment dans l'absentéisme puisque l'équipe est là pour détecter les difficultés. On a la possibilité par son binôme ou par son équipe de partager ces situations difficiles et d'éviter qu'elles se prolongent et qu'elles aillent jusqu'à un arrêt parce qu'on se blesse ou parce qu'on n'en peut plus.
L'épuisement, voici un motif d'arrêt de plus en plus fréquent cette année, notamment à cause du télétravail, selon l'étude de Malakoff Humanis.
Au total, selon le baromètre, 39% des salariés des TPE-PME ont eu au moins un arrêt de travail en 2021. Les arrêts de plus d'un mois sont aussi plus nombreux que l'an dernier. 61% des TPE-PME ont eu au moins un salarié en arrêt long cette année. Au Royaume-Uni, le Premier ministre se donne encore quelques jours pour annoncer les règles en vigueur à Noël. Faut-il ou non maintenir les Christmas parties en temps de pandémie? Délicate question. D'autant plus quand la presse exhume la fête organisée à l'hiver dernier au 10 Downing Street, au moment même où Boris Johnson durcissait les règles pour les Britanniques. Et ce n'est pas la seule nouvelle embarrassante, Marie Perviero.
C'est une tradition aussi ancrée que le pudding. Pas de vrai Noël en Grande-Bretagne sans sa Christmas party. Et le 10 Downing Street n'a pas souhaité renoncer à la sienne l'an dernier. Il y aurait même eu 2 fêtes un peu arrosées à la résidence du Premier ministre, alors même que la Grande-Bretagne multipliait les restrictions. L'opposition fustige un Boris Johnson enclin à interdire aux autres ce que son gouvernement se permet, mais son porte-parole assure que toutes les règles sanitaires ont été respectées. Le Premier ministre n'entend pas renoncer à sa fête de Noël cette année non plus, malgré les nouveaux variants, et fidèle à lui-même, multiplie les propos optimistes sur un Noël qui sera considérablement meilleur que l'année dernière. Boris Johnson le fait tard, une réputation qui lui colle à la peau, alors qu'une autre nouvelle embarrassante vient cette fois de Westminster. Le Sunday Times révélait ce week-end que des traces de cocaïne ont été retrouvées dans plusieurs endroits du Parlement, notamment dans les toilettes proches du bureau du Premier ministre. Imperturbable, ce dernier s'est affiché tôt ce matin avec la police antidrogue de Liverpool. Il présentera dans la semaine un plan pour intensifier la lutte contre les trafics.
Marie-Pierre Véro est face au Covid. Cette mesure forte du maire de New York, Bill de Blasio, qui rend la vaccination obligatoire pour tous les salariés du privé à compter du 27 décembre. Il va plus loin que le président Joe Biden, dont l'obligation vaccinale actuellement suspendue par une décision de justice ne concernait que les salariés des sociétés de plus de 100 personnes.
Il va falloir qu'elle réussisse à plaire à toutes les sensibilités de son parti.
Valérie Pécresse est en mission rassemblement avant de se rendre sur les terres de Xavier Bertrand cette semaine. Elle était logiquement aujourd'hui sur celle du finaliste Éric Ciotti. Pas très convaincu par ses premières déclarations hier, il lui a fait savoir, mais aujourd'hui c'est tout sourire qu'ils se sont affichés côte à côte à Saint-Martin-Vésubie, le fief du député des Alpes-Maritimes. Déplacement suivi par Georges Thau et Anne Souhaitemont.
Voilà, magnifique, s'il vous plaît. La mise en scène est soignée. Valérie Pécresse chez Éric Ciotti après un déjeuner en tête à tête.
De quoi avez-vous parlé pendant le déjeuner ?
De beaucoup de choses.
De cuisine interne ?
On a parlé de la France.
De stratégie, répond Valérie Pécresse, qui a bien entendu l'appel du pied lancé par celui qu'elle a battu en finale du congrès, mais qui est arrivé en tête du premier tour.
Ce que je suis venue vous dire ici, c'est que Éric aura une place très singulière dans ma campagne parce qu'il a une voix très singulière à faire entendre pour le pays.
Gage de la place qu'elle veut donner à Éric Ciotti, Valérie Pécresse ouvre la porte à une modification de son programme.
Je vais regarder si mon projet peut être pimenté par un certain nombre de ses suggestions. Voilà. Je pense notamment à quelque chose qu'il a dit durant cette campagne qui était fort. C'est quand il a dit qu'il fallait qu'on travaille sur la transmission.
Reprendre la suppression de l'impôt sur les transmissions, mesure phare d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse ne ferme pas la porte et fait ainsi rentrer Éric Ciotti dans le rang. Plus question de parler de tandem dans cette campagne.
Je me battrai avec Valérie, derrière elle, c'est elle qui a vocation à devenir le chef de l'État.
Mission accomplie pour Valérie Pécresse qui verra cette semaine Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin pour marteler façon méthode Coué l'unité DLR dans la course à l'Élysée.
Reportage signé Anne Souhaitemont. La campagne s'est donc accélérée ce week-end. Plusieurs milliers de personnes rassemblées au meeting de Jean-Luc Mélenchon et à celui d'Éric Zemmour. Le candidat d'extrême droite a d'ailleurs lancé un appel aux électeurs LR dont beaucoup sont représentés par, dit-il, son ami Éric Ciotti. Mais ce qu'on retient aussi du rassemblement de Villepinte, ce sont ces violences, des militants de SOS Racisme agressés, Éric Zemmour lui-même agrippé au cou, plainte croisée, enquête ouverte. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Que sait-on d'abord de l'empoignade du candidat ? Il fait état d'une blessure avec 9 jours d'ITT, interruption temporaire de travail.
Oui, c'est le premier volet de l'enquête déclenchée par le parquet de Bobigny qui porte sur ce jeune homme né en 1994 qui a tenté de s'agripper au candidat. Sur les images disponibles, on n'a pas vraiment l'impression qu'il souhaite porter un coup. Mais c'est justement sur cela que les enquêteurs ont commencé leurs investigations. Et ce soir, la garde à vue du suspect a été prolongée pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un sympathisant débordé par son enthousiasme, comme il l'a dit dès hier soir au début de sa garde à vue. Quant à la blessure d'Éric Zemmour au poignet, le parquet attend toujours un certificat de l'unité médicale judiciaire et non celui de 9 jours d'interruption totale de travail fourni par un médecin généraliste qui n'a aucune valeur légale.
Et sur les violences contre les militants SOS Racisme.
Alors là, le travail d'investigation va devoir être beaucoup plus poussé pour retrouver les auteurs de l'agression des militants de SOS Racisme. Son président, Dominique Sopo, a évoqué la présence d'activistes d'extrême droite, des zouaves ou de mouvances néo-nazis, une cinquantaine de personnes environ, rappelant que d'anciens membres du groupe dissous Génération Identitaire avaient posté des messages depuis l'intérieur de la halle de Villepinte, mais ceux qui ont frappé à terre les militants de SOS Racisme avaient des masques et certains des capuches. La Sûreté départementale de Sainte-Saint-Denis devait récupérer dans la journée toutes les images, celles qui ont circulé sur les télés, les réseaux sociaux, ainsi que celles officielles du meeting.
Et puis en parallèle de tout cela, une soixantaine d'interpellations à l'extérieur de la salle pour manifestation dans un périmètre non autorisé. Le parquet explique faire le tri, vérifier les conditions de ces interpellations et la régularité juridique des gardes à vue. Et à 4 mois de l'élection présidentielle, le paysage est donc quasi complet. Ne manque qu'Emmanuel Macron, président jusqu'au dernier quart d'heure, défend son entourage. Il se rend dans l'Allier et le Cher demain et après-demain pour parler des sujets du quotidien. Voici à présent un procès qui a une résonance particulière. 10 jours après le naufrage qui a fait 27 morts au large de Calais. 3 passeurs sont jugés devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, soupçonnés d'avoir aidé plus de 500 personnes à traverser la Manche au péril de leur vie entre juin et août dernier. 3 mois seulement et un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 million d'euros pour ses passeurs. Alice Marot, France Bleu Nord, a suivi cette audience, le procès de 3 passeurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai, déjà condamnés en août dernier.
Les 3 hommes ont été arrêtés alors qu'ils conduisaient un migrant à Calais. Ils sont jugés, 2 d'entre eux sont condamnés pour ces faits, mais l'enquête se poursuit et la police retrouve de nombreuses vidéos sur leur téléphone. Sur certaines, des migrants arrivés en Angleterre les remercient. Sur une autre, postée sur le réseau social TikTok, on voit un des prévenus sur un bateau vanter la beauté de la vue sur un fond musical en parlant de clients qui ont réussi à passer. Vous avez déjà vu un passeur se filmer, se défend le prévenu. Ça ressemble à de la promotion. Quand on vous voit, on dirait que c'est facile et agréable, répond la présidente. Dans la voiture, la police trouve aussi un carnet qui contient plus de 150 noms. Certains portent la mention « baby » pour « bébé ». En face de chaque nom, il y a une somme, 174 000 euros au total. Ces trois hommes se renvoient la balle, tous les trois nient, disent qu'ils n'étaient là que pour faire des réparations, gonfler les pneus d'une voiture, changer les moteurs des bateaux. Ils connaissent les passeurs mais n'ont rien organisé. Les réquisitions du ministère public sont en cours. Le tribunal devrait rendre sa décision dans la soirée.
Des réquisitions qui viennent de tomber à l'instant. 3, 5 et 7 ans de prison requises avec mandat de dépôt et une interdiction du territoire français. C'était Alice Marot de France Bleu Nord. Ce drame dans l'Oise, le responsable d'une résidence sociale à Doma de Nogent-sur-Oise a été retrouvé mort, frappé à la gorge. Un résident soudanais s'est rendu à la police en s'accusant de l'avoir tué à la suite d'un différend. Une cellule d'écoute et d'aide psychologique a été mise en place par les salariés, pour les salariés et les résidents. Une enquête a été ouverte. Le département du Nord s'inquiète du retour de la grippe aviaire. Un deuxième foyer vient d'être détecté à une vingtaine de kilomètres d'écart l'un de l'autre. Il y aurait suspicion pour deux autres exploitations de la zone. Pour éviter toute propagation, toutes les volailles de France doivent être confinées depuis un mois maintenant. C'est le seul moyen de les mettre à l'abri le temps du passage des oiseaux migrateurs. En tout cas, c'est l'appel du président de la filière éleveur de volailles et de la FNSEA, Jean-Michel Schaeffer, qui redoute une catastrophe comme l'hiver dernier dans le sud-ouest.
Pour l'instant, c'est vraiment des foyers distincts les uns des autres. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de protéger les animaux pour éviter que voilà, la maladie se répande ou qu'il y ait ses contacts avec les oiseaux sauvages. Pour justement pas mettre à mal ces filières plein air, parce que s'il y a des déflagrations dans les filières, après il est difficile pour elles économiquement de se relever, et même moralement pour les éleveurs. Comme ça a été notamment le cas l'année dernière, hein, ça a été quand même très très difficile dans le sud-ouest, avec un premier contact avec des oiseaux sauvages. L'épidémie s'est après répandue très très vite. Ce qui s'est passé dans le sud-ouest a quand même coûté 300 millions d'euros de perte de production et d'animaux qui ont manqué. Et ça, c'est quand même une perte économique que la filière aujourd'hui peut plus se permettre. C'est trop grave, quoi. Donc là, vraiment, le message, c'est abritons nos animaux pour les protéger.
Ce confinement des volailles qui n'aura pas d'impact sur la qualité des viandes sur les tables de fête, assure ce représentant de la FNSEA, lui-même éleveur en Alsace. Le tollé après les condamnations d'Aung San Suu Kyi, l'ex-chef du gouvernement birman, prix Nobel de la paix pour incitation aux troubles publics. L'Union européenne dénonce un verdict à motivation politique. La peine a été finalement ramenée de 4 à 2 ans de prison par la junte qui a repris le pouvoir en février dernier. L'étranger encore, en bref, le pape dit avoir accepté la démission de l'archevêque Aupetit à cause des commérages. Michel Aupetit accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il nie. C'est une injustice, a jugé le souverain pontife dans l'avion qui le ramène de Chypre, mais il ne peut plus gouverner car sa réputation a été atteinte. Et puis voici la réponse d'Ariane Group au développement de SpaceX. L'entreprise européenne, elle aussi, va fabriquer son propre lanceur réutilisable. Il y a un retard qu'il faut rattraper, a confirmé le ministre de l'économie. Et voici comment on revient aux annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran à la suite du Conseil de défense sanitaire de ce midi. Conférence de presse toujours en cours au moment où nous parlons. Maxence Lambrecq, vous êtes toujours avec nous. Il y a plusieurs annonces hein, quand même, Maxence. La première pour les discothèques, elles sont fermées pour 4 semaines.
Tout à fait, Jean Castex vient de l'annoncer. Les boîtes de nuit fermées à partir de vendredi, ce vendredi. Pour 4 semaines, donc jusqu'à la mi-janvier, puisque le virus circule dans cet ordre-là. Beaucoup chez les jeunes, à l'éducation nationale, nouveau protocole sanitaire qui passe au stade 3, c'est-à-dire le masque obligatoire en extérieur aussi, donc dans la cour de récréation, et les brassages limités, donc classe par classe à la cantine, par exemple. Autrement, voici la philosophie de Jean Castex, qui veut pas non plus paniquer les Français.
Cette situation nous appelle à la lucidité et à la vigilance sans céder pour autant à je ne sais quel affolement.
Voilà, pas d'affolement et donc pas d'autres interdictions, pas d'autres jauges, simplement une incitation au télétravail, 2 à 3 jours par semaine, demande le Premier ministre. Et si ça ne marche pas, on viendra à l'obligation de télétravail. Il parle de 3 jours de télétravail dans les services de l'État. Et il demande aux Français de lever le pied avant les fêtes de fin d'année pour sauver Noël et notamment interdire les pots de fin d'année.
Et puis il y a plusieurs annonces importantes sur la vaccination, Maxence.
Oui, il est revenu sur le problème d'accès à cette troisième dose. 10 millions de Français y ont eu accès, mais encore beaucoup de créneaux manquants. Voici ce que vient de dire Jean Castex.
Dans cette campagne de vaccination, nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent.
Voilà, vaccination des plus de 65 ans sans rendez-vous, avec 300 centres de vaccination qui vont bientôt ouvrir. Et pour la vaccination des enfants des 5-11 ans, à partir du 15 décembre, les plus fragiles y auront accès. Et pour le reste, pour tous les autres enfants, ils attendent encore l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais ils sont favorables sur la base du volontariat.
Voilà pour ces annonces. Discothèques fermées pendant 4 semaines, protocole 3 à l'école, mais les vacances qui ne sont donc pas avancées. Et puis la vaccination ouverte sans rendez-vous pour les plus de 65 ans, et puis ouverte également aux 5-11 ans fragiles au milieu du mois de décembre. Merci beaucoup Maxence Lambrecq. La lutte contre l'épidémie, on va continuer à en parler tout de suite avec vous Fabienne.